Bonjour Lionel.
Bonjour Marlène, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour dérouler l'actualité de ce mercredi 12 août.
J'ai jamais vu jouer l'Atalanta, l'équipe d'en face, donc je sais pas ce que ça va donner.
Mon pronostic, moi je dis qu'il y aura un 4-1, ça serait bien.
Ah, c'est sûr que ça serait bien. Match couperet pour le Paris Saint-Germain ce soir contre l'Atalanta Bergame. C'est une place en demi-finale de la Ligue des Champions qui se joue à Lisbonne. Ce sera peut-être enfin la bonne année pour le club parisien. Nous retrouverons Julien Froment en direct de Lisbonne dans quelques instants. Dans ce journal également, l'extension du port du masque dans les lieux publics et en extérieur. Nous serons à Bordeaux.
Ça fait déjà plusieurs jours que nous interrogeons sur la possibilité de rendre le port du masque obligatoire. Voyant que la situation s'aggrave, il fallait prendre des mesures.
Pierre Humeric, le maire, répond à l'appel lancé hier par Jean Castex, le Premier ministre. Vladimir Poutine n'a pas vraiment convaincu la communauté scientifique internationale après l'annonce de la mise au point d'un vaccin contre le coronavirus. Journée décisive pour la compagnie aérienne Hop, plus de 2000 emplois supprimés d'ici 2023 et 40% des liaisons vont disparaître. Et puis, ils n'ont jamais été aussi nombreux à traverser la Manche en petit bateau ou en canot pneumatique.
Les mers très calmes, l'absence de vent joue considérablement dans le nombre des tentatives, aussi bien nocturnes que diurnes maintenant. Les passeurs ont bien compris la chose.
L'Angleterre envisage de faire appel à sa marine royale pour empêcher les migrants d'accéder à ses côtes. Et puis la météo, Marlène Duret, la tendance orageuse se confirme par l'ouest de la France.
Oui, vous savez que ça cogne en ce moment du côté des Charentes, dans les Pays de la Loire, à l'ouest d'Angers. Et c'est le temps qui se dégrade nettement par l'ouest depuis la façade atlantique. Ça va remonter vers le nord du pays. 47 départements en alerte, hein. 47 départements de la moitié ouest. Et puis la chaleur qui va se maintenir quand même sur une grande partie nord-est, mais 53 départements toujours placés en alerte orange et ça va bouger d'ailleurs dans l'après-midi.
Merci Marlène, on vous retrouve un peu avant le journal de 13h qui sera présenté par Sophie Echen. Voilà pour le sommaire, place à l'actualité.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Qui aurait-il comme plus beau cadeau d'anniversaire qu'une qualification en demi-finale de la Ligue des Champions 50 ans, jour pour jour, après sa création, c'était le 12 août 1970, le Paris Saint-Germain joue sans doute l'un de ses matchs les plus importants sur la scène européenne. C'est ce soir, 21h, Stadio da Luz, à Lisbonne, contre l'Atalanta Bergame. Que match couperet, ça passe ou ça casse. Bonjour Julien Froment.
Bonjour Lionel.
Vous êtes notre envoyé spécial dans la capitale portugaise pour le premier match du tournoi final donc, hein, de cette Ligue des Champions. Deux mots d'abord sur l'ambiance, Julien. Malheureusement, ça n'est pas l'effervescence qu'on pouvait espérer.
Non, pas vraiment. D'habitude, dans la Ligue des Champions, ça rime avec la fête. Vagues multicolores de supporters, clameurs et chants incessants. Mais là, il faut l'avouer, rien de tout ça. La faute, bien évidemment, au contexte sanitaire. À Lisbonne, on voit d'ailleurs plus de masques que de maillots de football. C'est comme si le Final 8 ne se jouait pas dans la capitale portugaise, alors que les 8 meilleures équipes d'Europe sont présentes. David, en vacances à Lisbonne, ne s'attendait pas à une telle ambiance.
Je suis fan de foot. Je m'attendais vraiment à voir une animation spéciale en ville, du monde, des supporters. Et il n'y a rien du tout, c'est mort, c'est vide. J'ai vu un drapeau de la Ligue des Champions sur la place à côté. Et sinon, j'ai rien vu d'autre. C'est hyper décevant.
Alors, décevant pour les supporters. Mais sur le plan sportif, Julien, l'Atalanta Bergame, bon, on sait, il n'y a pas de joueur vraiment star hein, dans l'effectif. C'est un peu la révélation de cette Ligue des Champions. Mais franchement, ce n'est pas insurmontable. Le PSG a une bonne carte à jouer, non ?
Oui, effectivement, sur le papier, Paris, ses stars, son expérience face à la petite ville de Lombardie de 100 000 habitants, hein, cela à toute l'opposition entre David et Goliath. Le PSG est favori, mais ne prend pas son adversaire à la légère, le défenseur Marquinhos.
90 minutes comme des guerriers, tout donner. Voilà, il faut tout faire, pas avoir des regrets. Il faut avoir une bonne stratégie, qu'on soit présent dans ce genre de combat.
Un combat à mener avec Neymar, certainement aussi avec Kylian Mbappé qui devrait terminer la rencontre et donc une qualification à arracher. Paris, hein, vous l'avez dit, célèbre ses 50 ans et donc à l'occasion ce soir d'offrir eh bien, à ses supporters peut-être le plus beau cadeau possible avec une qualification en demi-finale.
Merci Julien Froment en direct de Lisbonne pour nous faire vivre ce soir ce match. Match à suivre donc en direct et en intégralité sur Europe 1 à partir de 20h dans une grande soirée animée par Lionel Rosso. Et puis bien sûr, je vous rappelle, hein, le podcast hein, produit par Europe 1 Studio, associé numéro 1 dans lequel, Julien, vous nous racontez l'histoire de la naissance du Paris Saint-Germain. Allez, encore deux mots. Yeah. Vous la reconnaissez cette musique, évidemment, celle de la Ligue des Champions. Bah, figurez-vous qu'elle va résonner la saison prochaine au Roazhon Park de Rennes, parce que compte tenu des résultats des clubs anglais et italiens hier en Ligue Europa, eh bien, le Stade Rennais décroche à son tour une qualification directe en Ligue des Champions, évite ainsi les tours de barrage. C'est la fête aujourd'hui parmi les fans du Stade Rennais et qui vivront donc la Ligue des Champions la saison prochaine.
Europe 1, midi 35, la suite du journal Inel Cougelot.
C'est la première conséquence du tour de vis annoncé hier par Jean Castex sur l'obligation du port du masque. Le Premier ministre qui demandait hier au préfet d'étendre le nombre de zones concernées par cette obligation. Eh bien, c'est le cas depuis ce matin à Bordeaux. Deux rues commerçantes et particulièrement fréquentées vont faire l'objet de cette obligation stricte. Et ce, dès ce week-end, Stéphane Place.
Oui, et ce n'est donc pas tout le centre-ville qui est concerné par cette obligation, mais les deux artères commerçantes principales bordelaises, la longue et emblématique rue Sainte-Catherine et la rue Porte-Dijot. Dans ces rues, porter le masque sera obligatoire à partir de samedi matin. Annonce qui intervient au lendemain du coup de pression du Premier ministre, mais le maire, Pierre Urmic, assure que cette décision était dans les tuyaux depuis un bon moment.
La ville de Bordeaux n'est pas sous tutelle, je vous rassure, et ça fait déjà plusieurs jours que nous interrogeons sur la possibilité de rendre le port du masque obligatoire. Voyant que la situation s'aggrave, il fallait prendre des mesures, mais on préfère commencer par ces deux rues emblématiques et puis nous réserver cette possibilité d'étendre le périmètre dans les jours qui viennent.
À l'origine de cette décision, donc, des indicateurs épidémiologiques inquiétants établis par l'Agence régionale de santé que dirige ici Hélène Junca.
Les taux d'incidence qui sont de 9 pour 100 000, par exemple, sur la métropole bordelaise, lorsqu'ils sont à 4,5 sur la Nouvelle-Aquitaine. Le taux d'incidence, c'est le nombre de cas confirmés pour 100 000 habitants et avec l'activité de consultation, par exemple, chez SOS Médecins et le nombre de clusters constatés sur une période et dans une zone déterminée.
Le port du masque obligatoire et de la pédagogie, disent les autorités, du moins dans un premier temps, avant les amendes qui sanctionneront ceux qui ne porteraient pas le masque désormais obligatoire dans ces deux rues de Bordeaux.
Merci Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. L'autre piste étudiée par le gouvernement pour faire face à une reprise potentielle de l'épidémie de coronavirus, c'est l'application du port du masque en entreprise, parce que dans certains lieux clos, le virus peut rester présent dans l'air. Élise Dangean est allée sonder quelques salariés sur cette éventualité.
S'il faut, faudra bien. On le porte déjà beaucoup dehors maintenant. On est quasiment obligé de le porter dehors, donc on le fera.
Porter un masque au travail du matin jusqu'au soir, y compris lorsqu'on est à son bureau, éloigné de plus d'un mètre de ses collègues, l'idée n'enchante pas Julien, qui a déjà prévu, si la mesure est appliquée, de rester le plus possible en télétravail.
Toute la journée au bureau, honnêtement, derrière son ordinateur avec un masque, peut-être chez soi, quoi.
Mais pour ça, encore faut-il que le télétravail soit possible et autorisé, sinon il faudra se plier aux règles. Sylvie, elle, s'est déjà fait une raison.
Ça me semble une bonne idée dans la mesure où il y a une inconnue concernant cette maladie et dans le doute, je pense que voilà, on doit absolument se protéger et protéger les autres.
En tout cas, cette mesure aura un coût que certains salariés, comme Adrien, sont prêts à assumer.
Le plus important, c'est quand même la santé. Du coup, moi, je serais prêt à mettre les euros qu'il faut pour les masques.
De leur côté, les entreprises doivent en tout cas se tenir prêtes. Le gouvernement leur a demandé à plusieurs reprises de se constituer un stock préventif de masques d'au moins 10 semaines pour tous leurs salariés.
Un reportage d'Élise Dangean. J'ajoute deux informations ce matin. La région de Bruxelles, en Belgique, qui met en place à son tour l'obligation du port du masque en extérieur. Et à Paris, le marathon de la capitale prévu le 15 novembre a été annulé, tout comme le semi-marathon d'ailleurs, qui était programmé lui le 18 octobre et qui n'aura pas lieu non plus cette année.
Il est midi 38.
Europe 1. On marque une pause et on revient sur le scepticisme général, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a accueilli hier l'annonce de Vladimir Poutine de la mise au point d'un vaccin contre le coronavirus. À tout de suite.
Votre journal de la mi-journée se poursuit sur Europe 1, Lionel Gougelot.
Coup de com' politique ou annonce prématurée? Les critiques ont fusé dans la communauté scientifique internationale après l'annonce par Vladimir Poutine de la découverte d'un vaccin russe contre le coronavirus. Ce matin, dans la matinale d'Europe 1, le docteur Martin Blachier, médecin épidémiologiste, rappelait qu'il fallait rester extrêmement prudent vis-à-vis de ce type d'annonce spectaculaire.
Je pense que la Russie a un vaccin qui visiblement procure une immunité, comme quelques autres vaccins, un ou deux vaccins chinois, un vaccin américain et un vaccin européen. Maintenant, ils sont tous en phase 3. La petite différence, c'est que la Russie a décidé probablement de vacciner sa population dès la phase 2. Mais le vaccin russe n'est pas plus avancé que les autres vaccins européens ou chinois. C'est un choix qui n'a jamais été fait. Le risque, c'est d'avoir des effets secondaires. qui n'ont pas été observés dans ces études-là, et puis aussi d'avoir un vaccin qui n'est pas efficace.
Martin Blachier, médecin épidémiologiste, invité ce matin de Sébastien Krebs sur Europe 1. Bonjour Victor Delande.
Bonjour Lionel.
On peut dire que l'annonce de Vladimir Poutine hier, elle a eu au moins le mérite de mettre en lumière une vraie compétition, voire une émulation internationale dans la recherche d'un vaccin.
Oui, depuis plusieurs mois, des chercheurs du monde entier essaient de trouver la bonne formule contre le coronavirus. Et tout va beaucoup plus vite que d'habitude. Les procédures ont été accélérées, c'est particulièrement vrai en Chine, pays qui a vu émerger le Covid-19 et qui voudrait être le premier pays à disposer d'un vaccin. Des levées de fonds internationales ont été lancées par les États et des fondations. Cela permet aux laboratoires pharmaceutiques de lancer la fabrication industrielle de plusieurs milliers de doses en même temps qu'ils testent leur vaccin. C'est inédit. Actuellement, 5 projets sont à un stade bien avancé, ce qu'on appelle la phase 3. On teste l'efficacité du vaccin sur une cohorte plus importante, des milliers de volontaires généralement. 2 candidats vaccins chinois sont à ce stade 3 et 3 projets occidentaux, un britannique, un autre aux États-Unis et une collaboration germano-américaine. Il existe ensuite une 20aine d'autres essais cliniques qui ont été lancés dans le monde, des essais qui pour l'instant sont au stade 1, celui où on teste la dangerosité du vaccin. Le candidat vaccin de l'Institut Pasteur en France en fait partie et d'après nos informations, leurs résultats sont déjà très prometteurs.
Alors Victor, on a l'impression de se poser la question pratiquement toutes les semaines, mais selon les spécialistes à qui vous avez pu parler, quand peut-on raisonnablement espérer un vaccin ?
Alors les plus optimistes, dont les Russes et les Américains, estiment qu'un vaccin sera disponible dès cet automne. Mais il est plus raisonnable de tabler sur le premier trimestre de l'année prochaine, en espérant bien sûr que les essais cliniques menés actuellement s'avèrent concluants. Mais il faut bien se rendre compte de la rapidité actuelle de la recherche. Normalement, il faut 5 à 7 ans pour mettre au point un vaccin.
Merci Victor Delande. Sur le front de la canicule, 13 départements restent placés en vigilance rouge, 65 en vigilance orange, dont 47 pour les orages. Des orages parfois violents qui ont éclaté hier en région parisienne, mais aussi en Gironde. Ils risquent d'être encore menaçants aujourd'hui, nous dira tout à l'heure Marlène Duré. Alors, s'il est des endroits où l'on espère plus qu'ailleurs la fin de cet épisode de canicule, ce sont bien les EHPAD, forte chaleur et Covid. Les personnels soignants doivent redoubler de vigilance vis-à-vis des pensionnaires. Reportage à Paimbalma, près de Toulouse, Benjamin Péter.
Il fait plus de 35 degrés dehors. Là, vous ne pourrez pas sortir. Alors, je sais que vous aimez la chaleur, mais aujourd'hui, c'est trop chaud.
Alors, Claire Jans, la directrice de l'EHPAD de la Seillonne, accompagne cette résidente dans un des salons climatisés. Le masque y est obligatoire, mais l'air beaucoup plus frais. Et toute la journée, les équipes travaillent pour garder la fraîcheur dans les chambres.
Dès le matin, quand on voit qu'il commence déjà à faire chaud, on ferme tout. On ferme les volets, on ferme les fenêtres. Du coup, dans la maison, il fait relativement bon. Dès que les températures redescendent, l'équipe de nuit aère toute la maison.
Vous m'accompagnez pour boire un petit verre d'eau ?
Il faut aussi s'assurer que les résidents boivent suffisamment. Des tours d'hydratation sont organisés en dehors des repas et chaque verre bu est inscrit dans un logiciel. Une attention essentielle pour le docteur Claire Bou, alors que beaucoup de personnes âgées n'ont pas la sensation de soif.
La sensation de bouche sèche, la plupart du temps, la personne âgée ne l'a pas. Donc ne sollicite pas le soignant ou la soignante pour lui apporter de l'eau, ou ne pense pas à boire, ou ne peut pas, tout simplement. Donc nous sommes aussi leur cerveau et leurs mains pour leur apporter l'hydratation qu'ils ne prennent pas par eux-mêmes.
Et l'établissement a aussi adapté ses menus, des salades, des fruits, des smoothies ou même des glaces pour traverser au mieux ces fortes chaleurs. À Paimbalma, Benjamin Péter, Europe 1.
Le couperet tombe aujourd'hui pour la compagnie aérienne Hop. La filiale d'Air France qui assure les liaisons régionales va tailler dans les effectifs et supprimer 40% des vols. La direction a précisé les contours de son plan de sauvegarde ce matin, Clément Le Saffre.
Oui, la direction et les représentants du personnel sont réunis en CSE extraordinaire en ce moment même à Nantes. Ambiance crispée, nous décrit un participant. Et pour cause, Hop va payer un lourd tribut dans la restructuration du groupe Air France. On l'a dit, 40% des vols vont disparaître, dont les liaisons Orly-Nantes, Orly-Mulhouse et Orly-Clermont-Ferrand qui ont fait beaucoup de bruit. Résultat, près de la moitié des 2400 emplois seront supprimés d'ici 2023. La direction promet qu'elle fera le maximum pour éviter les départs contraints. Des propositions de reclassement dans les autres compagnies du groupe Air France vont être formulées aux salariés concernés. Mais cela ne rassure pas Étienne Rossignol, représentant de l'Union des navigants de l'aviation civile.
Il y a beaucoup d'amertume, beaucoup d'aigreur, de la colère aussi chez certains salariés parce qu'ils s'estiment floués. Il y aura à la clé des mobilités contraintes. Et donc si les gens n'acceptent pas de changer de bassin d'emploi, ou pour nous par exemple navigants, si les gens n'acceptent pas de repartir tout en bas de l'échelle des grilles salariales Air France, eh bien ils seront en position d'être licenciés. Donc on parle réellement de licenciement.
Voilà, et les négociations doivent se poursuivre dans l'après-midi. Si les syndicats ne s'estiment pas satisfaits à la sortie du CSE, ils espèrent mobiliser les pouvoirs publics et l'opinion publique. Moins de liaisons régionales, avancent-ils. Ben, ce sont des territoires encore plus enclavés.
Oui, effectivement, avec les répercussions politiques que cela peut avoir. Merci Clément Le Saffre. Dans l'actualité également, le SOS de plusieurs élus locaux qui demandent un renforcement des sanctions pénales contre l'utilisation des tirs de mortier dans certains quartiers de cité. Alors, quand on dit mortier, il s'agit en fait de feux d'artifice, hein, parfois utilisés contre les forces de l'ordre et qui, plus généralement, pourrissent littéralement les nuits des habitants. Ces élus se disent démunis face au phénomène, notamment depuis le déconfinement. Écoutez le maire socialiste de Villeurbanne, Frédéric Van Steenwedel. Il était ce matin l'invité de la matinale d'Europe 1.
Quand il y a un tir de mortier à destination des forces de l'ordre, bien sûr, cela est répréhensible. Par contre, quand il y a juste une utilisation récurrente toutes les nuits jusqu'à 3 heures du matin de ces engins, ça ne relève pas d'une sanction pénale et on ne peut pas intervenir sur les contrevenants. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on souhaite renforcer l'arsenal législatif, que ce soit sur la vente de ces produits, parce que bien sûr, toutes nos villes ont pris des arrêtés anti-vente dans les magasins physiques qui existent, mais par contre, on ne peut pas réglementer la vente de ces engins sur Internet et aujourd'hui, ce sont les filières qui sont utilisées. Et puis, ce ne sont plus du tout des pétards ou des petits feux d'artifice, ce sont des engins qui sont extrêmement dangereux, un, pour les auteurs qui se mettent en danger eux-mêmes, et puis ensuite, effectivement, pour la population, si jamais elle était visée par des tirs de cette nature. Donc, il y a certainement quelque chose à faire sur la catégorie de ces explosifs qui sont utilisés, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas réglementé.
Cédric Van Steenwedel, le maire de Villeurbanne, invité de Sébastien Krebs ce matin sur Europe 1. L'hommage au policier Éric Monroy ce matin au Mans, capitaine de police mort en service la semaine dernière au cours d'un contrôle routier. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, présidait cette cérémonie. On y reviendra dans le journal de 13h avec Sophie Hachène.
Il est midi 47.
Europe 1. On marque une deuxième pause, on se retrouve dans un instant. Nous parlerons de ces migrants qui traversent la Manche à tout prix et par tous les moyens pour gagner les côtes anglaises. Gros plan également sur celle qui sera sans doute, dans les prochains mois, la figure principale du camp démocrate, Kamala Harris. Joe Biden, le candidat à la Maison-Blanche, l'a choisi comme colistière. A tout de suite.
Le journal La Suite sur Europe 1, Lionel Gougelot.
Contre les traversées de migrants dans la Manche, la Grande-Bretagne envisage maintenant de mobiliser la marine royale dans les prochains jours. Il faut dire que depuis quelques semaines, le phénomène ne cesse d'augmenter. Des clandestins qui tentent de rejoindre la France, de rejoindre l'Angleterre depuis la France en petits bateaux, en canots pneumatiques. On en a même vu parfois en paddle. Un simple chiffre, ces dernières 24 heures, une centaine de migrants sont parvenus à gagner les côtes britanniques et trois traversées ont été empêchées par les forces de l'ordre. L'Angleterre est toujours donc considérée comme un Eldorado pour ces migrants. Reportage à Calais de Maximilien Carlier.
À côté de l'hôpital, sur un rond-point, des dizaines de migrants autour d'un point d'eau. Lijam, érythréen, se rafraîchit avant peut-être de tenter sa chance. Rejoindre l'Angleterre, cela fait 2 ans qu'il essaie.
En Belgique, c'était en camion. Ici également. Mais il n'y a plus aucun moyen de passer de cette manière. Il y a trop de contrôles. Donc maintenant, je vais essayer le bateau.
La voie maritime privilégiée étant donné les conditions météo, Bernard Baron, président des sauveteurs en mer de Calais.
Des mers très calmes, l'absence de vent joue considérablement dans le nombre des tentatives, aussi bien nocturnes que diurnes maintenant. Les passeurs ont bien compris la chose.
Financièrement, c'est intéressant aussi. Les réfugiés sont parfois une dizaine sur un Zodiac. La traversée coûte entre 3 et 7 000 euros. François Guénoc, vice-président de l'Auberge des migrants.
C'est rentable. Un petit canot pneumatique plus un moteur, ça coûte 2 000 euros. Un migrant paye plus que 2 000 euros. Ça dépend aussi des nationalités. Les Iraniens payent moins cher que les Syriens. Par contre, ils payent plus cher que les Soudanais, certainement. Les passeurs adaptent leurs tarifs aussi. C'est du commerce.
Et autre raison pour expliquer cette augmentation des tentatives, c'est le taux de réussite. 2/3 environ de ces embarcations rejoignent les côtes anglaises. Calais, Maximilien Carlier, Europe 1.
Aux États-Unis, c'est un acte fort et symbolique que vient de poser Joe Biden, le candidat démocrate à la Maison-Blanche. Il choisit comme colistière et donc comme possible future vice-présidente, une femme noire, la sénatrice de Californie, Kamala Harris, âgée de 55 ans. Une décision historique qui devrait mobiliser l'électorat des minorités, Kamala Harris, qui pourrait bien faire basculer le vote en novembre prochain. Notre correspondant Benoît Clerc.
Née d'une mère indienne chercheuse en cancérologie, aujourd'hui décédée, et d'un père jamaïcain, prof d'économie, elle est la première femme noire originaire d'Asie du Sud à intégrer une présidentielle dans un ticket démocrate. Pour Joe Biden, cette juriste de 55 ans est précieuse car elle coche toutes les cases nécessaires. Elle est loyale mais ferme et on se souvient de leur passe d'armes lors du débat des candidats à l'investiture démocrate. Kamala Harris a gagné toutes les élections en Californie, qui est le plus gros vivier de donateurs et d'électeurs démocrates, et elle a conquis le Sénat à Washington le même jour que Trump était élu président. On la connaît charismatique, passionnée, mais ambitieuse aussi. Les sondages prédisent déjà que 90% des femmes noires voteront pour elle le 3 novembre prochain. Joe Biden, qui a 10 points d'avance sur le locataire de la Maison-Blanche dans tous les États clés, aura lui 78 ans en janvier. Il reste 83 jours à leur tandem pour convaincre l'Amérique. S'ils réussissent, nul ne doute aujourd'hui ici que Kamala Harris sera la première femme noire présidente en 2024. Aux États-Unis, Benoît Clerc, Europe 1.
Au Bélarus, les arrestations se multiplient après les manifestations d'opposants réprimées par les forces de l'ordre. Le pouvoir affirme ce matin que ces rassemblements de l'opposition sont toutefois en déclin. L'ancienne candidate Svetlana Tikhanovskaya est toujours en fuite en Lituanie et désormais c'est l'Union européenne qui menace Alexandre Loukachenko de sanctions parce que clairement, Jeanne Bergawi, la situation dans le pays inquiète de plus en plus la communauté internationale.
Absolument, inquiétude d'une escalade de la violence alors que la police vient d'annoncer il y a tout juste quelques minutes avoir fait un nouveau blessé en tirant avec des armes à feu. Jusqu'ici, les brigades anti-émeutes affirmaient n'utiliser que des balles en caoutchouc pour tirer sur la foule et même sur des mineurs. Alors hier soir, troisième nuit de contestation, troisième nuit de répression des manifestants qui descendent dans les rues de Minsk et des villes de province pour réclamer la démocratie. Ils continuent de dénoncer un scrutin qualifié de mascarade. Depuis dimanche, la police fait état de plus de 5000 arrestations. Et c'est donc cette situation, cette répression qui inquiète la communauté internationale. La Maison-Blanche se dit grandement préoccupée par cette intimidation de l'opposition et qui entache le processus électoral. Même préoccupation pour l'Union européenne. Les 27 dénoncent une violence disproportionnée et inacceptable. Ils menacent donc de sanctions alors qu'elles avait été levée en 2016. Et fin août, elle sera donc à l'ordre du jour d'une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. La communauté internationale qui dénonce également les pressions à l'encontre de Svetlana Tikhanovskaya qui conteste la victoire d'Alexandre Loukachenko. Elle a dû quitter le pays pour se réfugier à Vilnius en Lituanie dans la nuit de lundi à mardi. Les circonstances précises de ce départ restent encore troubles. Un exil forcé qui suscite tout de même l'espoir des opposants politiques et qui aspire à une réaction internationale plus ferme. Et c'est ce qu'espère également le ministre lituanien des Affaires étrangères. Selon lui, face aux répressions contre la population biélorusse, eh bien le monde démocratique a l'obligation morale de réagir.
Merci, merci Jeanne Bergawi. Avant de retrouver le programme complet de la météo avec Marlène Duré, on ne résiste pas à la rédaction d'Europe 1, il faut le dire, au plaisir de vous raconter cette histoire rapportée par les gendarmes de l'Aveyron. Une automobiliste contrôlée en excès de vitesse et en état d'ébriété. Pour échapper à la sanction, on dit parfois que plus c'est gros, plus ça passe. Mais là, pour le coup, ça n'a pas été le cas, Guillaume Billet.
137 km/h au lieu de 80, le radar est formel. Les gendarmes arrêtent aussitôt la conductrice, qui souffle dans les kilomètres. Elle a plus de deux fois la limite autorisée. Et alors que son permis est en train de voler en éclats, l'automobiliste ne se démonte pas. Pour tenter d'échapper à la sanction, elle annonce aux gendarmes qu'elle est magistrate antiterroriste. Rien que ça, raconte l'adjudant Joël Thirier, qui commande la brigade de Vézin de l'Evezou.
Elle s'est présentée comme juge antiterroriste au parquet antiterroriste de Paris, ensuite comme consultante auprès du parquet de Rodez, ensuite au fil des versions comme simple interprète au parquet de Rodez, et en fait elle était rien de tout cela. Mes collègues sur place ont effectué quelques vérifications, ont passé quelques coups de fil, et les enquêteurs se sont aperçus qu'elle avait inventé toute cette histoire. Je pense que de souvenir, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui se présente comme une magistrate antiterroriste. On n'est pas tombé dans le panneau, enfin mes gendarmes ne sont pas tombés dans le panneau, pas du tout. Hein. Il ne faut pas jouer avec les gendarmes, surtout ceux de l'Aveyron.
Résultat, permis suspendu et garde à vue pour usurpation de titre. Une fois reconnu son gros mensonge, la conductrice a été déférée devant une vraie magistrate du parquet de Rodez, qui l'a renvoyée en correctionnel, où elle sera jugée en novembre.
Devant un vrai tribunal. Merci Guillaume Billet. Il nous reste à voir la météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Rebonjour Marlène Duré.
Rebonjour Lionel.
Cette fois, ça y est, la canicule touche progressivement à sa fin, dites-nous.
Oui, doucement. Bon, c'est vrai qu'elles vont commencer à baisser à l'ouest, hein, déjà aujourd'hui. Mais et on va redescendre sous les 20 degrés parce que c'est ça qui est important, c'est la nuit. Hein, la nuit. Mais là, du côté du nord-est, là ça va rester encore élevé. Hein, dans la région lilloise, la région parisienne, il fera encore lourd la nuit prochaine avec encore des températures minimales supérieures à 20 degrés. 22 prévus par exemple à Lille, Paris et Lyon. Bon, en attendant, cet après-midi. Prévoyez, allez, 36 dans le Lyonnais, le Dijonnais, du côté de la Moselle aussi, à Metz, hein, à 30, 36 degrés à Paris, 35 à Lille, Reims, Besançon, Grenoble, à Rouen, avant les orages, 35 degrés, il fera 34 à Bourges et Montélimar, alors que nous aurons 25 à 29 le long de la côte atlantique, ça baisse, 25 par exemple du côté de la Bretagne sur l'île de Groix. Dans le sud-ouest, 33 à Toulouse, 30 à Bordeaux, 29 à Tarbes. Voilà, ça c'est pour les températures. Mmh. La baisse est donc liée à cette perturbation orageuse qui arrive par l'ouest et ces orages qui nous concernent déjà. Je vous parlais tout à l'heure du Poitou-Charentes, des Pays de la Loire, et ça va continuer comme ça. Il y aura plusieurs lignes de départ, on appelle ça des pulsations chaudes. Nouveau départ en début d'après-midi du côté du Poitou-Charentes, d'Aurillac, le Massif central, ça va reprendre aussi en cours d'après-midi. Et ça va remonter vers la région parisienne, un petit peu comme hier, vers 18h-19h. Et attention aux fortes rafales de vent sous les orages, au risque de grêle, aux fortes intensités de pluie. Voilà pourquoi 47 départements sont placés en alerte orange jusqu'à 3h cette nuit, 3h du matin. Quant à la canicule, toujours 53 départements. Comment ça va évoluer les jours prochains? Parce que c'est ça aussi qui est important.
C'est la question que j'allais vous poser.
Demain, toujours des orages, beaucoup d'orages d'ailleurs, dans une zone très active entre le Nord-Aquitaine, le Limousin, le Poitou, le Centre-Val de Loire, une bonne partie de la Bretagne, la Normandie, la région parisienne, bourrasques, trompes d'eau encore au programme. Peut-être aussi tout autour de ces régions des orages. Il y a vraiment que sur la côte d'Azur et la Corse, on sera protégé, les températures vont rebaisser. 25 degrés en moyenne au nord, 30 au sud pour la journée de vendredi. Les orages qui vont un petit peu persister au nord de la Loire. Et puis après, du soleil qui va revenir par le sud. Samedi, ça s'annonce quand même pas trop mal.
Et ben voilà quand même une bonne nouvelle.
On
merci.
J'ai essayé de faire simple. La situation est quand même un petit peu complexe.
Et c'est tout à votre honneur, ma chère
merci
Marlène.
Lionel.
Merci. Géraldine, à tout à l'heure.
Merci à vous, Lionel. On vous retrouve à 18h.